histoire.
L'ASMA depuis la semaine dernière de la campagne Made in Congo par les ministres de l'Industrie. Selon Germain Kambinga, cette campagne vise non seulement à promouvoir la consommation par les Congolais des produits congolais, mais aussi à témoigner aux industriels le soutien et l'accompagnement du gouvernement congolais. Comment analyser cette campagne lancée par le gouvernement? Nous en parlons avec Germain Kambinga, il est ministre de l'Industrie du gouvernement central. Bonsoir, monsieur le ministre Germain Kambinga.
Bonsoir.
Michel Somou, il est analyste économique et ancien directeur général de la Fédération nationale des petites et moyennes entreprises du Congo FENAPEC en cible. Bonsoir, monsieur Michel Somou. Et Victor Nzuzi, il est coordonnateur de l'ONG Nouvelle Alternative pour le Développement. Bonsoir, monsieur Victor Nzuzi.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La campagne Made in Congo a été lancée depuis lundi 26 janvier dernier par le ministère de l'Industrie en vue non seulement de promouvoir la consommation par les Congolais des produits et autres biens produits au Congo, mais aussi de témoigner aux industriels le soutien et l'accompagnement du gouvernement congolais. Mais partout où il est passé, le nouveau ministre de l'Industrie, Germain Kambinga, n'a entendu que des doléances majeures, concurrence déloyale parfois favorisée par l'État congolais et l'asphyxie fiscale. Innocent Olinga pour les détails.
Des Pelustor en passant par Dispromalt, UPAC, Famico, Marsavco, Tisakine, Bralima et Mousse Moderne Congo, du moins jusque-là visité par le ministre Germain Kambinga dans le cadre de sa campagne Made in Congo, les responsables de ces firmes déplorent la concurrence déloyale. Ils en font porter la responsabilité à l'État congolais à travers ces exonérations incontrôlées accordées à certains opérateurs économiques mais surtout aux entreprises chinoises qui en abusent beaucoup. Souvent, dénoncent-ils, la quantité commandée et exonérée est supérieure à celle réellement utilisé pour les travaux d'intérêt public. Le surplus est donc déversé sur les marchés sans aucun paiement de taxes ni d'impôts. De même pour les produits en provenance d'Angola qui entrent par la localité de Lupo au Bas-Congo sans aucun frais de douane. Quant à l'asphyxie fiscale, c'est la surtaxation qui est décriée. Et Germain Kambinga en est conscient.
Nous allons prendre en compte cela. Les instructions très fermes du Premier ministre ont été données pour l'élargissement d'une coopération mutuellement avantageuse entre les opérateurs économiques à travers le cadre de concertation économique et les différents ministères concernés. Donc rassurez-vous, de ce point de vue, vous allez constater très rapidement une évolution des choses.
Une évolution des choses attendue vivement par les industriels qui l'estiment importante pour influer sur les coûts de production et ainsi arriver à la baisse des prix de leurs produits fabriqués.
Merci Innocent Olinga. Germain Kambinga, je rappelle que vous êtes ministre de l'Industrie du gouvernement central. Vous avez lancé Made in Congo depuis la semaine dernière. Quel est le sens que vous donnez à cette campagne?
Écoutez, c'est comme vous l'avez souligné à l'entame de votre propos, nous voulons lancer un message très clair aux industriels de la République démocratique du Congo, leur dire simplement que la République, le gouvernement de la République sera à leur chevet pour les aider à prospérer parce que la République démocratique du Congo a besoin d'une renaissance industrielle. Cela se justifie par quelques chiffres. Au sortir des indépendances et jusque dans les années 80, nous avions 8500 industries. Aujourd'hui, nous en avons moins de 150. 80% de la consommation nationale est assurée par les importations, 20% pour la production locale. Nous avons un chômage galopant. Nous avons une problématique qui est devenue la priorité du gouvernement, la recherche de la croissance inclusive. Lorsque vous mettez tout cela ensemble, le ministère de l'Industrie se retrouve au cœur de la problématique et doit proposer les solutions. Et la solution que nous proposons ici, c'est le redressement productif, c'est la renaissance industrielle de la République démocratique du Congo. Et la première étape, la première étape d'un encouragement du secteur industriel, récolter les cahiers de charges, établir un mécanisme de suivi et d'accompagnement, le ministère de l'Industrie devenant le ministère avocat des industriels. Mais à côté de cela, il y a la mission de promotion des industries locales qui est une des attributions du ministre de l'Industrie. À travers cette mission, nous demandons aux Congolais donc de consommer congolais pour établir cette chaîne de solidarité économique consommation importante entraîne une plus grande production locale, qui entraîne un besoin de main-d'œuvre supplémentaire, donc des emplois supplémentaires, mais augmentation également de la production et des ventes des entreprises industrielles, ça entraîne des revenus supplémentaires pour ces industries, donc des possibilités supplémentaires d'avoir des moyens plus importants dirigé vers la caisse de l'État. Donc nous parlons donc d'une chaîne de solidarité industrielle et économique mutuellement avantageuse entre les différents acteurs. Et chacun a sa responsabilité. Nous, gouvernement, c'est l'accompagnement, l'encadrement et la protection. Le peuple congolais, c'est la consommation de ces produits pour rendre le secteur industriel congolais plus attractif. Voilà l'objectif fondamental de la campagne Made in Congo, qui va se traduire bien sûr par ses dimensions promotionnelles, mais par des actions de fond liées à la problématique de la qualité des produits, à la problématique du financement des produits, à la problématique de la protection et de l'aide à l'essor industriel des industries. Bien sûr, cela s'adresse aux industriels congolais, petites et grandes, mais aussi aux industriels qui ne sont pas congolais à travers un appel aux investissements directs étrangers. Lorsque vous mettez tout cela ensemble, on se retrouve au cœur d'une véritable stratégie de redressement productif qui, nous l'espérons, avec la volonté du gouvernement, devra, dans les années qui viennent, porter les premiers résultats.
Monsieur le ministre, quel est le volume des exportations aujourd'hui en RDC?
Excusez-moi.
Quel est le volume des exportations aujourd'hui en RDC?
Volume. Lorsque vous entendez volume, vous parlez du chiffre ou des quantités, parce qu'il faut bien comprendre. Lorsque vous parlez de volume, c'est quoi exactement? Vous cherchez un chiffre?
Je parle en termes des chiffres.
Bah, écoutez, moi je suis ministre de l'Industrie, je dois vous avouer que je ne suis pas ministre du Commerce, mais ce que je sais, par ailleurs, je vous ai dit que les données que nous avons font état de 80% de la consommation nationale et le résultat des importations.
Ça, c'est les importations.
20% consommation locale. La question des exportations, le Congo n'exporte pas énormément de produits industriels de consommation. Nous sommes essentiellement exportateurs des produits extractifs. Et là, vous êtes au-delà de 30 milliards de dollars, évidemment. Donc, il faut bien circonscrire la question. Les exportations de la République démocratique du Congo sont essentiellement des exportations minières. Lorsque vous parlez des exportations du secteur minier, vous êtes au-delà de 30 milliards de dollars. Mais, au niveau des importations, nous sommes à quelque chose comme un peu plus de 2 milliards.
Oui, vous dites que cette campagne vise aussi à témoigner aux industriels le soutien et l'accompagnement du gouvernement congolais. Monsieur le ministre, certains experts estiment que l'État congolais ne favorise pas du tout l'émergence de l'entrepreneuriat national, et cela est même confirmé, corroboré par les entrepreneurs à qui vous avez rendu visite. Ils dénoncent des mots, concurrence déloyale favorisée par l'État congolais et l'asphyxie fiscale.
Écoutez, l'action du gouvernement est une action qui a vocation à s'améliorer, à s'adapter aux problématiques telles qu'elles se posent. Lorsque le chef du gouvernement traduit en acte la volonté du chef de l'État de faire en sorte qu'il y ait un essor industriel en République démocratique du Congo en nous autorisant à entamer cette campagne, ça veut dire qu'il y a une volonté de prise en charge. Le chef du gouvernement a reçu dans une dimension plus transversale la Fédération des entreprises du Congo et à ce niveau, des instructions très précises ont été données, notamment la redynamisation du cadre de concertation économique dirigé par mon collègue, le ministre de l'économie. Et des réunions sont déjà convoquées et la redynamisation de cette structure est en cours. Ça veut dire qu'en réalité, en pratique, nous savons que nous avons une responsabilité à assumer et cette responsabilité est en voie de l'être encore davantage aujourd'hui plutôt qu'hier et demain certainement plus qu'aujourd'hui. C'est ça la responsabilité du gouvernement. L'encadrement dont vous parlez, ça passe par les problématiques de financement. Moi, je suis ministre de l'Industrie. Mon devoir, c'est d'encourager et de travailler pour la mise en œuvre d'une ingénierie financière à même de faciliter l'accès des Congolais à des financements innovants, à des financements plus accessibles, notamment par le Fonds de promotion de l'industrie qui va subir des mutations fondamentales. Ça, ce sont des travaux de fond qui sont en train de se faire. Le fait de décider que dorénavant le ministère de l'Industrie sera davantage un ministère avocat des industriels plutôt qu'un ministère de la répression, nous serons un ministère de l'incitation. C'est un choix volontariste.
Merci, monsieur le ministre.
Pour rendre plus attractif le secteur. Donc voyez-vous, il y a des évolutions.
Merci Michel Sommouet. Je rappelle que vous êtes analyste économique et ancien directeur général de la Fédération nationale des petites et moyennes entreprises du Congo, FENAPEC en sigle. Comment vous analysez cette campagne Made in Congo?
Merci Dieu de me faire participer à ce débat sur les efforts en cours pour l'émergence de l'industrie congolaise. Mais ce que je dois dire d'entrée de jeu, c'est que si aujourd'hui vous avez constaté qu'il y a un mouvement des altermondialistes qui se bat contre la mondialisation, c'est essentiellement dicté par un constat, celui de l'injustice qui caractérise les échanges commerciaux entre les pays industrialisés et les pays en développement. C'est comme qui dirait que la puissance d'un pays dépend de son industrialisation, de son degré d'industrialisation. C'est autant dire aussi l'importance qu'il faut accorder au ministère de l'industrie ou simplement à l'industrie dans notre pays. Qui dit économie dit d'abord, en fait, quelque part, un niveau donné de développement de l'industrie. Surtout que la mondialisation à laquelle nous ne pouvons pas échapper a connu une grande transformation, une grande mutation de la structure des échanges internationaux qui sont aujourd'hui dominés par les produits industriels. Alors que jadis, la première vague d'internationalisation était caractérisée par les échanges de produits primaires. Donc, je suis en train de dire là qu'il faut encourager tous les efforts possibles qui peuvent pousser l'industrie congolaise à un niveau donné de compétitivité. Je ne parle pas de la campagne que le ministre mène, parce que du point de vue de la campagne qu'il mène, il me surprend quelque peu, moi personnellement.
Comment ?
Il me surprend parce que M. Kambinga, je le connais, à travers les médias bien entendu, comme il a un passé, il ne sort pas de la couche de Jupiter. Il a un passé politique, et ça veut dire qu'il sort d'un parti politique qui prône le libéralisme économique.
Le MLC.
Le MLC, dont il fut du reste porte-parole. Ça signifie que je ne l'attendais pas du côté où il se trouve aujourd'hui. Je le vois engagé dans la campagne de sensibilisation de la demande. En tant qu'apôtre du libéralisme, je l'attendais du côté de l'offre, comme artisan d'une certaine économie de l'offre. C'est-à-dire qu'il aurait dû s'engager primordialement dans la lutte contre tous ces goulots d'étranglement qui entravent, tous ces goulots, toutes ces difficultés, tous ces obstacles qui entravent l'émergence d'une véritable industrie nationale. C'est important de le dire. Il y a, vous avez dit, les opérateurs économiques qu'il a visités n'ont pas eu la langue de bois, ils ont révélé leurs difficultés rapidement, mais qui sont nombreuses, qui vont au-delà de ce qu'on a appelé la concurrence déloyale, etc. On ne peut pas dans en pleine mondialisation comme nous sommes prétendre échapper à une certaine concurrence. Face à cette concurrence, déloyale ou pas déloyale, il faut opposer des mécanismes de construction d'une véritable compétitivité de l'industrie locale. C'est tout ce qu'on demande. C'est-à-dire améliorer les mécanismes de l'offre, du mécanisme de production industrielle au Congo.
Est-ce que tout ne commencerait pas par cette campagne qui vise la promotion de la consommation?
La sensibilisation de la demande, à moins que M. le ministre me dise qu'il est devenu iconoclaste comme Keynes, c'est la promotion de l'économie de la demande. Je ne suis pas opposé. Mais je dis que le problème est d'identifier au préalable quelle est la cause de la léthargie de notre économie, de notre système industriel. Qu'est-ce qui manque à l'industrie congolaise qui est endormie en quelque sorte sur des atouts extraordinaires de notre pays? On a parlé des mines, on a parlé de l'agriculture, on a parlé ici. Ce sont des produits de matières premières qui servent, qui devraient servir de support, de socle à une véritable industrialisation. Mais chez nous, on a dit, qui dit matières premières, qui dit produits primaires, c'est destiné à l'exportation essentiellement. Mais qui dit produits manufacturés, essentiellement ça vient de l'extérieur, le ministre l'a dit. La consommation des produits importés représentent 80% de la consommation globale de ce pays. Mais la question est de savoir le pourquoi de ça. Ce n'est pas en disant aux Congolais, consommer aux Congolais, qu'on a consommé aux Congolais, qu'on a réglé le problème. Il faut comprendre qu'est-ce qui fait la dynamique de l'économie internationale aujourd'hui. Parce qu'il y a des avantages comparatifs, comme on le dit, de Ricardo, je crois que M. Kambinga le sait très bien. Il y a le problème du coût d'opportunité. Il ne faut pas s'en passer. Il faut le savoir. Ce sont des coûts qui sont inhérents aux mécanismes de décision de la part des opérateurs économiques. Aujourd'hui, l'industrie congolaise, elle est malade. Le ministre a donné des chiffres. Quand il compare les années 80 à aujourd'hui, il a donné des chiffres qui renseignent bien, qui maîtrisent parfaitement la situation de l'industrie congolaise. Mais il reste maintenant à identifier les véritables causes pour prendre les mesures les plus adéquates. Parce que, souvenez-vous, il y a un peu moins de 10 ans, nous avons connu dans ce pays une dame qui a été à la tête du ministère du portefeuille, qui a fait elle-même aussi une campagne tapageuse sur, en faveur du COPIREP, des réformes d'entreprises publiques. Et aujourd'hui, 3 mois d'ailleurs après, on n'en parlait plus. Elle s'est têtue avec sa campagne. Mais où est-ce que nous en sommes aujourd'hui avec cette campagne de réformes des entreprises publiques? Quels résultats avons-nous atteints aujourd'hui? Regardez les LAC, regardez la SNCC, regardez l'OCPT, regardez tout ça. Donc, au-delà de la campagne, il est important que les responsables politiques de notre pays identifient clairement les causes de la léthargie de notre système économique, en sachant au départ qu'il y a un grave problème de coût de transaction qui fait, par exemple, qu'aujourd'hui, il est préférable pour un consommateur congolais d'acheter des ketchups qui viennent de la Chine au lieu de les attendre d'une industrie congolaise locale ici. Parce que le coût auxquelles les entreprises congolaises font face est exorbitant, indépendamment des tracasseries fiscales. Mais il y a un problème de coûts de transaction qui sont inhérents à notre économie. C'est là le point de départ. Si le ministre de l'Industrie n'identifie pas ce problème dès le départ, il va faire une très grande et une très longue campagne.
Merci.
Mais qui ne sera accompagnée d'aucun résultat concret.
Merci Victor Nzouzi. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de l'ONG Nouvelle Alternative pour le Développement. Lancement de la campagne Consommons Made in Congo avec comme objectif promouvoir la consommation par les Congolais des produits congolais. Comment vous analysez cette campagne?
Et merci beaucoup d'abord pour l'invitation, mais je pense que c'est une campagne qui n'ira pas très loin, dit clairement. Je crois que Michel Somoy vient de parler tout à l'heure des origines du ministre, et je dois rappeler que nous sommes dans un système libéral à part les origines du ministre. Nous sommes dans un système libéral où le capitalisme aujourd'hui n'a presque plus de conquérants avec la chute du mur de Berlin. Mais aussi, je dois rappeler que au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, les entreprises aujourd'hui où la production doit faire face à la concurrence et à la compétition. Voilà deux mots clés. Et donc, si aujourd'hui les entreprises, d'autres entreprises sont en train de se plaindre, donc les entreprises installées au Congo, je me demande en quoi d'ailleurs ces entreprises sont des entreprises congolaises, parce que si ce sont le produit de ce qu'on peut appeler délocalisation, ben je me demande qu'est-ce que ça va apporter dans le trésor public. Ça, le ministre devrait nous dire aussi par rapport au budget qui a été voté, par exemple, les différentes entreprises ou l'industrie congolaise, combien ça apporte dans le budget national. Parce que de cette façon-là, le consommateur congolais qui comprend l'apport de ces industries dans le budget national, donc dans l'économie congolaise, eh bien, il va s'engager, par exemple. Mais sinon, je ne crois pas tellement, parce que le Congolais n'a pas le pouvoir d'achat qui convient, qui peut lui permettre de pouvoir acheter en supportant la concurrence loyale ou déloyale. Donc, le pouvoir d'achat du Congolais ne lui permet pas d'acheter ce qui peut être à un coût réel. Parce que très souvent, les produits importés, ce sont des produits qui sont aussi exonérés ou qui reçoivent des subventions, par exemple, à l'exportation dans leurs différents pays. Et ça, avec l'objectif de casser les économies des pays pauvres. Donc le ministre, il le sait, je crois que lui, il le sait très bien. Mais ce que je voulais simplement dire, que le revenu fait que le Congolais, même quand il doit consommer, il choisit ce qui coûte moins cher, qui malheureusement est de mauvaise qualité, très souvent, c'est de très mauvaise qualité. Mais bon, voilà, il n'a pas de revenu, il le fait. Après, il y a un problème de confiance aussi, n'oubliez pas cela. La confiance, est-ce que le Congolais a confiance au Congolais? Le Congolais, est-ce qu'il a confiance même à son gouvernement? Est-ce que le Congolais, il a confiance dans son prochain Congolais? Ça, c'est un problème. Aujourd'hui, nous avons perdu confiance à cause de toute cette inversion des valeurs, à cause de cette corruption que nous voyons, à cause de l'immoralité, le mers et consorts. Donc, les Congolais ne croient presque plus. Non, heureusement que la citoyenneté va à l'école primaire. Bon, mais il faut éduquer à l'école primaire et secondaire. Mais il faudrait aussi éduquer au niveau le plus haut. Parce que dans votre reportage, vous avez dit que c'est le gouvernement qui fait entrer ce produit. J'étais dans un débat quand vous m'aviez appelé, vous m'aviez annoncé cette émission. J'ai demandé au public, mais c'est quoi cette histoire? Alors, ils m'ont dit, mais c'est l'État qui fait venir ce produit. C'est l'État. Et donc, c'est l'État qui doit trouver une solution. Mais tout ce que moi, je veux vraiment dire, que je suis un peu surpris de voir le ministre qui voudrait défendre les entreprises, les entreprises installées au Congo ou bien les industries installées au Congo. Je sais que dans la plupart des cas, je crois que 60% sont des industries qui viennent d'ailleurs, délocalisées, qui s'installent ici. Mais quand est-ce que le ministre, peut-être ce sera son collègue de l'agriculture, qui va défendre le petit paysan qui n'arrive pas aussi à mieux vendre dans ce pays, qui ne vend pas de prix rémunérateur. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous consommons aujourd'hui? Chaque matin, ce que nous consommons, c'est du pain. Ce n'est pas la patate, ce n'est pas l'igname, ce n'est pas la banane, ce n'est pas le taron que nous consommons. Et hier, ou ce matin, je suivais un reportage avec les enfants sur Radio Okapi. On leur demandait quel genre de fruits vous prenez. Est-ce que vous prenez le fruit? Les enfants parlaient des raisins, ils parlaient de pommes, et ils parlaient de tout ce fruit qui vient de l'Europe. Donc, déjà, les petits-enfants savent que ce qu'il faut consommer, et surtout quand ils sont de familles aisées, ils savent que ce qu'il faut consommer, c'est ce qui vient d'ailleurs. Donc, voilà un peu de problème. Je regrette, mais c'est comme ça. Je pense qu'on doit aussi défendre le petit Congolais, donc le petit producteur congolais, paysan par exemple, pour qu'on consomme le manioc, le pain, à la place du pain le matin, pour qu'on consomme l'igname, la patate douce, qu'on consomme l'ananas congolais, et qu'on soit capable de pouvoir le conserver, et qu'on soit capable de pouvoir amener cet ananas et ses fruits dans le lieu de consommation. Mais et ça, malheureusement, on ne le fait pas. Donc voilà, je suis un peu désolé qu'on parle de ces industries. Je ne sais pas quel est l'apport de ces industries dans l'économie congolaise.
Monsieur le Président,
et que nous sommes dans une situation aujourd'hui pratiquement de vie. Nous vivotons. Donc voilà. Donc s'il faut mener cette campagne, moi je pense qu'il y a un grand travail à faire. Mais surtout, cette campagne, il faudrait la mener auprès des autorités pour qu'ils défendent d'abord la petite économie congolaise, avec des Congolais, et après ils vont défendre les industries délocalisées qui s'installent, qui ont été délocalisées, qui s'installent ici, et toutes les autres industries pirates qui viennent s'installer. Bon, voilà ce que je peux dire.
Oui, monsieur Vitton, vous ne réalisez pas les bien fondés, n'est-ce pas, de cette campagne Consommons Made in Congo. Vous avez évoqué la situation des petits paysans. Vous dites ces petits paysans vendent quoi, comment. Vous ne pensez pas que pour que ces petits paysans vendent, il faut que le Congolais apprenne à consommer local? C'est lorsqu'il va consommer localement, il va consommer les biens qui sont produits localement, que ces petits paysans pourra aussi vendre comme il se doit.
Oui, mais je suis pleinement d'accord. Mais je dis, il faut qu'il y ait que ces Congolais qui doivent consommer puissent avoir un revenu. Mais quand l'enseignant a 70 000 francs, s'il doit acheter entre le chinchard, le poisson bio d'importé et le poisson d'eau douce du fleuve Congo ou bien du lac Kivu, mais qu'est-ce qu'il va acheter? Il va acheter le chinchard. Et quand vous lisez dans le dictionnaire, le chinchard, c'est le poisson de mauvaise qualité quand vous lisez dans l'encyclopédie. Mais il ne peut pas acheter. Cet enseignant, il ne peut pas acheter le poisson pêché par le pêcheur congolais. Eh bien, écoute, cet enseignant, ce qu'il va acheter, est-ce qu'il va acheter la viande produite au Congo, la viande de bœuf produite au Congo, qui coûte, par exemple, 18 $ le kilo, ou bien il va acheter la viande kappa qui coûte à peine, je ne sais pas, 3 000 francs le kilo. Donc voilà. Donc moi, je veux bien qu'on consomme congolais, mais il y a des paramètres. Vous savez, nous sommes engagés dans le système libéralisme avec l'annulation de notre dette. Eh bien, tous ceux qui nous ont annulé la dette nous ont imposé des conditions. Et ce sont ces conditions auxquelles le gouvernement est en train de répondre. Je suis désolé qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on doit protéger l'industrie installée au local, mais je pense que c'était déjà raté. Les entreprises dont Somoé a parlé tout à l'heure, c'est vrai, il a dit, mais ces entreprises vont disparaître. Hein. Je crois que c'est ce que Michel Somoé voulait dire aussi. Ces entreprises, la SNEL, SNCC, Régie des Eaux, l'ONATRA d'ailleurs, qui est presque déjà...
Je vous redonne la parole, Monsieur Victor Zizou. Je vais vous redonner la parole tout de suite. Monsieur le ministre Germain Kaminga, vous avez suivi Monsieur Michel Somoé et Victor Nzouzi. Michel Somoé qui, dit que vous venez d'un parti politique, le MLC, qui fait la promotion, n'est-ce pas, du libéralisme économique, et donc il s'étonne de la campagne que vous menez actuellement. Et lui, il estime qu'il faut commencer d'abord par identifier les véritables causes pour prendre des mesures adéquates. Et Victor Nzouzi qui, lui, il est pessimiste, hein, il pense que cette campagne n'ira pas très loin, et il se pose même la question de savoir en quoi ces entreprises dont vous parlez sont congolaises. Il pose aussi la question de l'apport, n'est-ce pas, de ces industries congolaises dans les budgets de l'État.
Ok, ben voilà, je crois bien que lorsque je vois la passion avec laquelle les deux intervenants ont posé leurs arguments, ça prouve effectivement que nous avions raison d'ouvrir ce débat à travers le lancement de la campagne. Les faiblesses dénoncées par le premier comme le deuxième intervenant prouvent que la fatalité ne doit pas être de mise et que la responsabilité du gouvernement, c'est de prendre ses responsabilités et de s'engager dans ce combat pour le redressement productif. Je commence par M. Somoé qui me parle d'une politique de la demande qui ne serait pas libérale et que je suis d'origine libérale. Moi, je crois qu'il ne faut pas s'enfermer dans des postures dogmatiques. La gouvernance, lorsqu'on gouverne, lorsqu'on est aux affaires, on est dans la vraie vie, dans la réalité. Et on pose les actes par rapport à ceux qui se présentent devant vous et on trouve des solutions. C'est pour ça qu'on est là. La politique de l'offre est une politique libérale, mais la politique de demande n'est pas une politique antilibérale. Bien au contraire, elle est social-libérale et les deux se rejoignent de toute façon de manière théorique à un niveau. Maintenant, il faut bien retenir quand même que je ne fais pas une politique de la demande lorsque je lance la campagne Made in Congo. Vous-même, lorsque vous avez annoncé l'émission, vous avez bien précisé les deux aspects de la campagne. Il y a une dimension liée au soutien de l'offre dont il parle. Lorsque nous parlons de l'encadrement, lorsque nous parlons de l'accompagnement, lorsque nous parlons du financement, nous sommes bien dans une politique incitative de l'offre. Lorsque nous disons que le ministère de l'Industrie va devenir le ministère avocat des industries, nous sommes bien dans une mesure de l'offre, de la relance par l'offre. Lorsque nous disons que nous allons prendre les dossiers de chacune des industries, réfléchir ensemble avec elles, avec le gouvernement, de manière transversale, dans le cadre de concertations économiques dirigées par mon collègue, le ministre de l'Économie, pour détecter qu'est-ce qui handicape, qu'est-ce qui obère la compétitivité des industries congolaises, trouver des solutions, prendre des décisions face à la concurrence déloyale, des importations frauduleuses. Nous ne combattons pas les importations légales. Il faut qu'il y ait de la compétitivité. Les frontières sont ouvertes, le libéralisme. Mais il faut tenir compte de la concurrence loyale. La concurrence, elle doit être loyale. Vous ne pouvez pas importer frauduleusement et faire du dumping au niveau de la République démocratique du Congo parce que, ce faisant, vous agissez en défaveur des intérêts de la République puisque son industrie s'en retrouve handicapée. Ça, c'est pas une politique de la demande. Mais dans le même temps, nous sommes pratiques. Nous disons, la République démocratique du Congo, c'est 70 millions d'habitants, sinon un peu plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est 70 millions de consommateurs potentiels, extensibles, même à 250 millions si on regarde au niveau régional. Donc ça veut dire que notre devoir, c'est aussi de dire aux Congolais, vous devez être les premiers consommateurs des productions locales lorsqu'elles existent. Mais il y en a quelques-unes qui existent et celles-là, il faut les encourager. Donc nous sommes bien à cheval entre la nécessité d'impulser une relance en termes de politique de l'offre
Monsieur
par l'encadrement des industries.
Monsieur
mais nous devons également inciter les consommateurs congolais à consommer local pour créer cette chaîne. Nous avons bien parlé de chaîne de solidarité économique. Donc les deux pans de la problématique sont pris en compte.
Oui, la monsieur le ministre, vous avez suivi M. Victor Nzouzi qui a relevé...
Je vais y arriver, ça c'est la deuxième question.
Il dit consommons congolais, mais avec quel revenu?
Nous n'allons pas nous comprendre. J'ai répondu à la première question, laissez-moi atterrir sur la deuxième question. Je n'ai pas fini, je parlais du premier intervenant. Il a également parlé de la problématique...
Malheureusement, on n'a pas tout le temps. Hein.
Bon, ok, je passe direct à la deuxième question. Monsieur Nzouzi, voilà, il dit... plusieurs choses à la fois. Il me soutient en réalité lorsqu'il considère que les Congolais doivent consommer congolais. Il parle de plein de choses à la fois. Et finalement, à la fin, moi je comprends simplement une chose, c'est qu'il y a une nécessité de travailler. De travailler pour que toutes les problématiques qu'il a soulevées puissent être rencontrées. Il pose deux problèmes. Il dit les industries, pour l'essentiel, qui sont là, je vais lui donner les chiffres, c'est 17%, si vous voulez, de l'activité économique nationale. L'industrie en l'état actuel. C'est 17% de l'activité nationale, ce n'est pas suffisant, ça devrait être plus que ça.
Merci, monsieur le ministre.
Il dit que c'est essentiellement les industries étrangères installées au Congo et que faisons-nous pour les industries locales? Mais je l'ai dit précédemment, il y a la problématique du financement, la transformation du FPI, la recherche de financement innovant, des mécanismes de facilitation. Je l'ai dit à l'entame de mon propos, écoutons-nous, ne cherchons pas simplement à poser la critique parce qu'on doit la poser. J'ai parlé de cette problématique qui est prise en charge dans le cadre de cette campagne et les résultats seront présentés très rapidement. N'oubliez pas que ce gouvernement, finalement, est quand même assez jeune.
Merci, monsieur le ministre. Je vous redonne la parole, monsieur le ministre.
Très rapidement.
On n'a pas fait de temps, malheureusement.
30 secondes. Étrangères. Les entreprises étrangères, les entreprises locales. Mais là, je suis tout à fait désolé. Vous ne pouvez pas parler de libéralisme et considérer que lorsque nous travaillons pour l'attractivité de l'espace économique national, pour faire venir les investissements directs étrangers, parce que le développement se finance avec des ressources longues et que l'épargne interne à court terme n'est pas assez importante pour nous permettre d'impulser une dynamique de redressement économique, lorsque nous nous battons avec dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires pour
merci monsieur le ministre, je vais vous redonner la parole.
Les investisseurs ne sont pas les bienvenus.
Il faut se permettre aux autres de pouvoir parler
en contradiction avec les visées qui sont celles de tout Congolais.
Merci monsieur le ministre. Merci Michel Somoin.
Inclusive.
Vous venez sur monsieur le ministre qui évoque cette volonté, n'est-ce pas, des prises en charge. Il parle de la problématique des financements et il dit que lorsqu'on gouverne, n'est-ce pas, on pose des actes par rapport aux réalités du terrain.
Non, je pense que le ministre fait beaucoup d'amalgame. Il faut identifier le problème de base. Victor Ndouzi a commencé par dire qu'on ne peut pas reprocher aux Congolais de ne pas consommer Congolais, made in Congo, à partir du moment où tout le monde est conscient qu'il a un revenu faible, il a un problème de pouvoir d'achat. S'il faut faire une campagne en faveur de la demande, s'il faut faire une politique de la demande, pour utiliser le bon terme du ministre, il faut bien s'adresser à ce moment-là, non pas aux Congolais, mais il faut s'adresser aux employeurs, en commençant par l'État lui-même, pour faire respecter la législation des lois, pour faire valoir, donner au facteur travail la valeur économique qu'il mérite. Or, aujourd'hui, le Congolais est victime. Et vous allez vous adresser à une victime de renoncer, d'être de bonne foi. C'est pas possible. Nous disons...
Mais il dit qu'il y a une certaine volonté, n'est-ce pas, de prise en charge par le gouvernement.
Non. Cette volonté, c'est le terme le plus courant. Il n'y a jamais eu un seul gouvernement qui n'ait pas parlé de sa volonté de mieux faire. Nous sommes habitués à ce terme de volonté. Mais je constate que les actions du ministre, il ne vient que de commencer. C'est encore trop tôt d'ailleurs de le juger parce que d'ici 3-4 mois, nous pourrons revenir sur ce plateau et démontrer que sa campagne se sera arrêtée net sans résultat aucun. Parce qu'il y en a qui ont fait cette campagne avant lui et qui n'ont abouti à aucun résultat, faute de prendre en considération le véritable problème auquel fait face l'industrie congolaise. Le ministre n'a pas raison de rejeter du revers de la main l'argument de Victor Ndouzi lorsqu'il dit « En quoi ces entreprises sont-elles congolaises s'il ne s'agit pas d'une simple délocalisation des entreprises étrangères au Congo ?» Le problème que nous nous posons, c'est le problème « À quoi ça sert de l'industrie ?» Il faut que de l'essor de l'activité industrielle émerge une certaine industrie organique qui puisse faire le noyau de l'économie nationale. C'est-à-dire, en quelque sorte, nous voulons que le « made in Congo » soit le produit du travail et du capital congolais aussi. C'est important. Je parle bien du travail, je ne parle pas de l'esclavage auquel sont astreints beaucoup de mes compatriotes. Je parle bien du capital congolais en commençant par le capital financier qui est incarné par les valeurs monétaires nationales et non pas d'une industrie qui est basée sur, qui est alimentée par des capitaux étrangers, par des politiques étrangères. Ce sont des, finalement, on va aboutir à quoi ? À une accentuation de l'extraversion de l'économie nationale. C'est ça le danger. Parce que c'est déjà le mal dont nous souffrons. Moi, j'aimerais bien encourager le ministre dans sa campagne Made in Congo. Et cette campagne, je serais très heureux de voir le ministre à Météo, par exemple, où il y a des Congolais qui font la transformation du bois. Ils produisent des mobiliers. Je voudrais que le ministre Kambinga installe dans son bureau des meubles fabriqués à Météo. À ce moment-là, je croirais en ce qu'il dit. Mais si son fauteuil vient de la Chine, écoutez, qu'il arrête de raconter des histoires. Mais écoutez, les Congolais font beaucoup d'histoires ici. Je voudrais bien voir le ministre Kambinga.
Et donc, il faut prêcher par l'exemple.
Il faut prêcher par l'exemple. C'est ça la bonne campagne. Qu'on le voit à Météo acheter des meubles pour installer dans son bureau, made in Congo. Nous serons contents du ministre. Nous voulons voir le ministre aller, par exemple, encourager les femmes qui fabriquent des robots. De robots roulages, comme on appelle en termes courants. C'est ça que nous voudrons voir, ça. Merci. Le made in Congo, parce que ça, c'est le produit du travail et du capital congolais. Je suis tout à fait d'accord, j'ai commencé par marquer l'importance de l'industrie pour un pays et pour une économie nationale. Je suis donc tout à fait d'accord avec toute campagne qui affirmerait l'identité du Congo dans le produit. Je suis d'accord avec le ministre, pour ça je suis d'accord. Mais je dis, le ministre se trompe, il devrait s'attaquer du côté de l'offre. Ça, d'ailleurs, ça correspond mieux à son profil d'ancien membre du MLC. Il ne s'agit pas de rester.
Mais il vous a dit lorsque on gère, n'est-ce pas, on pose des actes par rapport aux réalités.
Je commençais par dire au ministre que je ne lui reprochais pas d'être un iconoclaste qui renonce aux traditions. Il est libéral. S'il renonce pour devenir keynésien, tant mieux. Ce n'est pas mon problème, je ne lui reproche pas, M. Comis, c'est tout court. Mais je dis que le ministre doit commencer par savoir que le vrai problème de l'industrie congolaise se trouve au niveau de l'offre qui se trouve étranglée dans l'œuf.
Merci.
Mais pas l'industrie, celle qu'il voit, qui pointe, qui est de localisée, mais la véritable industrie congolaise, c'est qui va nous permettre d'avoir une classe moyenne congolaise et donc une économie nationale.
Merci, Monsieur Victor Nzuzi. Au sujet des plaintes des entrepreneurs, hein, ils ont parlé de l'asphyxie fiscale, ils ont parlé de la concurrence déloyale qui serait, n'est-ce pas, entretenue par l'État congolais. Et le ministre a promis l'élargissement d'une coopération entre les opérateurs économiques et les différents ministères concernés à travers le cadre des consultations économiques, et il espère qu'il y aura évolution.
Bon, ben écoute, moi je ne sais pas répondre à la place du ministre ou bien des industriels si réellement ils croient. Mais je pense que ça va être très très difficile parce que ceux-là qui importent, les importateurs. Moi je me rappelle par exemple à la veille des fêtes de Nouvel An, très souvent on réunit les importateurs. Et on demande aux Congolais d'être calmes parce que le marché sera renfloué. Voilà, donc le gouvernement a toujours encouragé ces importations. Et il y a même des importations qui permettent de calmer les émettes, hein. Donc il faut savoir ça. Donc on facilite ce genre d'importation de produits venant de l'extérieur pour éviter les émettes, pour permettre aux gagnants petits, à ceux qui n'ont pas le revenu, de pouvoir quand même se retrouver malgré eux dans ces produits parfois très souvent de mauvaise qualité. Mais l'essentiel, qu'ils puissent avoir un habit, un pantalon, un peu de souliers, même si ces souliers peuvent s'éclabousser après 3-4 jours. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, je crois vraiment pas, moi. Je ne crois pas. FPI, il en a parlé, hein. Il y a eu débat dernièrement au Parlement. Ben, je ne sais pas à quoi il faut vraiment croire. Est-ce qu'on encourage réellement l'industrie congolaise et surtout la petite industrie congolaise? Je doute. Je doute fort. Donc, pour moi, il y a un grand travail à faire. Il y a un grand travail à faire et au niveau du gouvernement, je pense qu'ils doivent réellement se décider pour savoir où nous voulons aller dans ce pays. Sinon, on sera toujours dans l'exonération, on sera toujours dans des promesses et 2-3 ans après, on est à la case du départ, quoi. Et très souvent, on dit, ben écoute, ça n'a pas marché à cause de la guerre, à cause de l'insécurité, voilà pourquoi l'économie n'a pas marché. Mais maintenant, on nous dit que nous sommes dans un pays post-conflit. Donc, nous voulons voir le résultat de l'industrie, le résultat de l'économie de ces pays, réellement. Et que ça soit, que ça donne le résultat, qu'on retrouve le bien-être du citoyen congolais. Donc voilà, moi, mon problème.
Monsieur le ministre, nous allons prendre pour vous cette question qui vient du Sud Kivu, à Bukavu.
Bonsoir, Mohamed de Bukavu, Sud Kivu. La campagne Made in Congo, lancée par le ministre de l'Industrie, est une très bonne chose. Cependant, je ne cesse de me demander pourquoi commencer par lancer une telle campagne alors que la production nationale est en général quasi inexistante en RDC, où les gros de la consommation restent tributaires des importations ou de la production extérieure. N'est-ce pas que ce slogan « Made in Congo » risque d'être un slogan creux, un pur impressionnisme politique si l'on ne songe pas à implanter d'abord des unités de production au niveau national capables de faire réellement face aux importations afin d'améliorer la consommation locale et pourquoi pas la balance commerciale de la RDC.
Monsieur le ministre.
Oui, voilà, c'est une excellente question qui, une fois de plus, justifie la nécessité de ce débat sur le Made in Congo qui est un programme global. Il ne faut pas réduire le Made in Congo à un slogan « Consommons congolais ». « Consommons congolais », c'est un slogan de la campagne, mais ce n'est pas le contenu du programme dans sa globalité. Oui, nous avons un problème de production, mais est-ce que ce n'est pas en ouvrant le débat, en prenant en charge la problématique que nous allons trouver des solutions? Bien sûr, c'est ça la démarche. C'est ça le sens de la campagne Made in Congo. Lorsque nous disons que nous devons rendre la République démocratique du Congo encore plus attractive pour les investissements directs étrangers, c'est parce que nous avons besoin de cette épargne internationale pour avoir de grandes industries avec de grands capitaux et de gros investissements. C'est 2 365 000 km² la RDC, c'est 70 millions d'habitants. Il faut de l'investissement direct étranger. C'est le sens de notre démarche. Mais il faut également le développement d'une classe industrielle nationale. C'est notre priorité et c'est une de nos préoccupations. Donc pour cela, il faut des mesures incitatives en termes de financement.
Monsieur le ministre.
La réflexion qui est menée à travers la transformation du FPI, qui est l'instrument du gouvernement. Même si en réalité, elle doit pouvoir être installée pour faciliter l'accès au crédit et toutes ces réflexions sont sur la table. Maintenant, j'ai bien suivi Monsieur Somoué une fois encore, mais on dit
qu'il dit que il faut que Made in Congo soit le produit du travail du capital congolais.
J'ai reçu le secteur du textile, l'association des stylistes congolais. J'irai partout où mes fonctions m'obligeront à aller pour accompagner la classe moyenne congolaise dans le cadre de mes attributions, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un ministre chargé des petites et moyennes entreprises, mon collègue le ministre Bongo. Mais bien sûr, à un moment, la dimension transversale de certaines questions nous oblige à coopérer, et c'est ça le sens du cadre de concertation économique. Vous voyez, donc rassurez-vous, nous comprenons l'empressement que les uns et les autres ont face à des résultats qui tardent à arriver, mais dans le cadre de la campagne Made in Congo, nous comptons bien, à travers une approche consciente, cohérente et finalisée, aboutir à des résultats. Ce n'est pas de la poudre aux yeux, ce n'est pas une campagne qui n'a pas de contenu. J'ai bien stratifié la dimension de la problématique. Laissez-nous faire notre travail, c'est notre responsabilité en tant que gouvernement, en tant que ministre.
Monsieur le ministre, nous sommes presque à la fin de l'émission. Est-ce que vous pouvez déjà commencer à conclure ?
Je suis en train de conclure pour vous dire que la réindustrialisation du Congo passe par la prise en charge de cette problématique dans sa globalité. La problématique de la consommation locale est une problématique essentielle qu'on ne peut pas ignorer. Et c'est trop facile de dire qu'on n'a pas de pouvoir d'achat. S'il n'y avait pas de pouvoir d'achat, il n'y aurait pas d'importation. S'il y a des importations, c'est parce qu'il y a des gens qui achètent. Donc il faut produire localement. Et nous, quand on était beaucoup plus jeunes, on a connu une consommation locale prédominante avec les glaces Alaska, les Pepsodent, et les savons, le coq. C'était ça le Congo ou le Zaïre de l'époque. Donc il est possible de soutenir l'industrie locale par une consommation locale plus importante. Mais il est encore plus important, et je l'ai déjà dit, pour l'État de prendre en charge la problématique.
Merci, monsieur le ministre.
Et de l'accompagnement des industries. C'est notre rôle, c'est notre devoir, et nous allons l'assumer. Moi, je voudrais que vous
réveilliez
dans 3, 4, 5, peut-être dans 8 mois.
Monsieur Somoué, votre conclusion?
Oui, moi, je pense que, évidemment, on ne peut pas demander au ministre de l'Industrie de faire le travail de ses collègues. Parce qu'il y a, comme il a dit, le ministre des PME, il y a le ministre des Finances, il y a le ministre de l'Économie, il y a tout ça. C'est un ensemble. Nous disons au ministre de l'Industrie de savoir identifier, pour ce qui concerne son secteur, les véritables causes de la léthargie du secteur industriel congolais. Parce que nous sommes le pays réservoir mondial de toutes les matières premières stratégiques qui ont permis l'éclosion de l'industrie à travers le monde. Nous avons dit que l'économie, l'Occident est devenu un colosse grâce à la mondialisation, à l'ouverture. qui lui a permis d'importer des matières premières, notamment de chez nous. Mais nous ne savons pas quoi en faire nous-mêmes. C'est à ce problème qu'il faut que le ministre trouve des solutions. L'intervenant de Bukavu vient de souligner le même problème, qu'il faut s'attaquer à la question de production et non pas à celle de la consommation. C'est une erreur.
Merci, Yvan Zouzi. Votre conclusion ?
Ouais, ben, moi, je pense que c'est une bonne campagne, mais tout simplement, il doit fournir beaucoup d'efforts parce que, très souvent, les exonérations et autres faveurs, c'est les membres du gouvernement qui accordent. Et aussi, on doit fournir un effort par rapport à la mentalité congolaise. Cette mentalité, aujourd'hui, qui a perdu réellement ses divisions. Donc, ça, c'est un problème. Et après, ne pas oublier que nous sommes dans le capitalisme. Donc,
merci.
Quand vous menez cette campagne,
merci, malheureusement nous sommes à la fin de cette émission. Merci à Guy Manzango qui était à la technique, Alain Rung, Kelly Kouté, Béry Franklin Chaka qui m'ont aidé à préparer cette émission sous la supervision de Julien Nyamouni, à la présentation Guy Maté. Merci et bonne suite du programme sur Radio Capi.